Ali Bokoum est travailleur dans une organisation de défense des droits humains. Il fait partie des privilégiés parce qu'il a un salaire qui tombe tous les mois. Mais cette année, plus que les autres, son...
Radio G. 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire suivante, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs et auditrices, bonjour. Éric Fotorino, journaliste et écrivain reconnu et plusieurs fois récompensé, a publié de nombreux récits inspirés de son histoire familiale, comme Korsakov, Question à mon père, 17 ans, Mon enfant, ma sœur. Aujourd'hui, nous vous présentons des extraits de L'homme qui m'aimait tout bas, publié chez Gallimard en 2009. Un hommage bouleversant à son père Michel, disparu en 2008. Le 11 mars 2008, en fin de journée, dans un quartier nord de La Rochelle, mon père s'est tué d'un coup de carabine. Il avait garé sa voiture sur un parking et s'était installé à la place du passager, sans doute pour n'être pas gêné par le volant. Il a légèrement incliné son siège en arrière, a étendu ses jambes, glissé l'arme le long de son corps, porté le canon à sa bouche. Puis, d'un geste souple, lui qu'on appelait l'homme aux mains d'or quand il était kinésie rue Bazoges, avec sa blouse blanche, son teint mat et son sourire étincelant d'homme du soleil, il a pressé la détente. J'ignore ce qui me pousse à écrire ces quelques lignes et à continuer. Tout est à la fois si confus et si clair. Mon père, qui m'avait tant donné, à commencer par son nom, a choisi d'en finir ainsi. Au commissariat, avec mes deux jeunes frères François et Jean, le policier nous a montré la cartouche vide dans un sachet transparent. En fait, pas une cartouche, une balle de calibre 12 utilisée pour la chasse aux sangliers. Papa ne voulait pas se rater. Pourtant, elle avait l'air inoffensive, cette tige de plastique rose, légère comme une plume. Le policier nous a parlé d'une carabine à un coup, un modèle très ancien au mécanisme peu courant. On s'est regardé, ça ne nous disait rien, cette carabine. Nos oncles et tantes ont pensé à la Buffalo Concours, une arme des manufactures de Saint-Étienne, que mon grand-père avait offert à son fils aîné pour son entrée en sixième, l'année de ses 11 ans. J'ai calculé 1948. En Tunisie, c'était un cadeau courant pour un garçon en âge de cavaler dans le Tchott El Djerid, derrière gazelle et mouflon. Mais non, ce n'était pas cette carabine. C'est idiot, mais on a été soulagés de savoir que papa n'avait pas fait ça avec la Buffalo Concours donnée par son propre père. Le lendemain, au courrier, j'ai reçu une lettre. J'ai reconnu son écriture sur l'enveloppe. Depuis la veille, j'avais gardé l'œil sec. Je pleurais comme pleurent les grottes à l'intérieur. Il était partout dans mon esprit. Il me parlait. J'avais ses intonations dans l'oreille. Son image animée, puisqu'il vivait en moi. Il était vivant, n'est-ce pas? Sa lettre était pleine de choses qui font pleurer, alors ça n'a pas manqué, la digue a rompu. Je m'étais isolée pour la lire sans témoin. Il y avait aussi une lettre pour François et une lettre pour Jean. Il me chargeait de les leur remettre, et j'ai pensé à cette expression, avoir charge d'âme. C'est à mon adresse qu'il avait écrit leur nom et prénom, et soudain, mon adresse m'a fait frémir. Ma maison se situe dans un ancien quartier militaire, une rue calme, rue du Tir. C'est une phrase qui m'a ravagée dans cette lettre incroyable de retenue et de lucidité chez cet homme qui avait décidé de se tuer et qui, sans trembler, avait écrit à chacun de ses fils et à quelques proches d'une écriture exceptionnellement aérée, aérienne, comme s'il avait voulu que chaque mot puisse être déchiffré sans difficulté ni hésitation. Ce n'étaient pas ses pattes de mouche habituelles, mais des lettres amples, tendues vers le ciel, tracé par quelqu'un qui respire à plein poumon et sent la vie entrer en lui comme jamais à l'instant qu'il a choisi pour la quitter. Au total, 6 courriers partis vers différents coins de France. Et curieusement, aucun ne porte de tampon, d'oblitération, de mention de lieu, d'heure ou de date. J'ignore encore les raisons de cette énigme. Était-ce le seul fait du hasard ou une volonté délibérée d'effacer ses traces? Un arrangement avec le receveur des postes d'un village où il connaissait chacun? Où il avait ici rééduqué une jambe, là soulagé une hanche, ailleurs délié une main? Cette enveloppe immaculée a épaissi le mystère de sa mort, comme s'il avait lui-même déposé dans ma boîte aux lettres son ultime message, à plus de 500 kilomètres du lieu où il finissait de vivre. Cette phrase qui m'a ravagée, qui a ouvert la vanne des sanglots, disait « Chapeau, Eric, il a fait du chemin, le gamin du Grand Parc ». Allusion à la cité où j'habitais avec ma mère à la fin des années 1960 à Bordeaux, avant qu'il se rencontre et se marie, avant qu'il m'adopte, qu'il nous donne son nom à elle et à moi, ce nom que je porte comme un talisman, qui sentait la Tunisie du Sud, les pâtisseries orientales, l'accent de là-bas, la chaleur et le bleu du ciel, les dunes de Tozeur et le miel, quelque chose d'infiniment généreux qui passait dans sa voix ou dans ses seuls gestes quand il estimait que les mots étaient en trop, et qu'il préférait se taire, promenant seulement sur moi un regard d'une tendresse sans fond ou recherchant ma complicité d'un clin d'œil. À l'époque, je l'appelais encore Michel. Sa malade famille l'appelait Michou. Il était beau, plein de muscles et de douceur, naturellement bronzé, un visage fin et expressif, l'air débonnaire, tranquillement sûr de lui, de son charme, de sa force. Quelque chose d'un acteur de cinéma. Me vient une réplique d'Yves Montand dans César et Rosalie à propos de Samy Frey. « On sent le type à l'aise, quoi. » Et Romy Schneider répondait « Cela s'appelle le charme. » Maman paraissait heureuse avec lui. Un soir, il est entré dans ma chambre et m'a dit en se raclant la gorge que si je voulais bien, il serait mon père et que je pourrais l'appeler papa. J'ai raconté cet instant de magie dans plusieurs de mes livres et moi qui ne les relis jamais, je me suis précipitée sur eux en cherchant fébrilement les pages où je le décrivais, une fois en marchand de canne à pêche, une fois en ostréiculteur aux mains tailladées, une autre fois sans phare ni fiction, tel qu'en lui-même dans un livre dédié à Michel Fotorino, mon père. Mes mains tremblent chaque fois que je veux retrouver ces passages où il vit encore. Je cherche dans mes romans des preuves de vie, les preuves qu'il a vécues, que nous avons vécues ensemble, heureux. J'ai réalisé à ce moment la dimension magique de l'écriture. Les personnages ne vieillissent ni ne meurent.
لو كنت نغامر
Je me demande ce qu'il a fait toute la journée avant de se garer en fin d'après-midi sur ce parking. Et le jour d'avant. Et cette dernière nuit. Nicole, sa compagne, n'a rien remarqué. Il est parti, comme d'habitude, après son café du matin. Papa, où es-tu allé? Qui as-tu vu? Pourquoi ce jour-là, précisément? Toutes ces heures à tuer avant. As-tu hésité? Douté? Songé à renoncer? Sûrement pas, au contraire. Je tente d'imaginer, mais l'imagination ne m'aide aucun secours. Il n'a pas cherché à me joindre, pas plus que je n'ai songé à l'appeler. Je n'ai rien senti. J'entends encore la voix de Nathalie, ma femme, au creux de mon oreille ce soir-là. Elle a appelé. J'étais debout dans un train de banlieue au milieu d'une travée. Sa voix. « Il est arrivé quelque chose à ton père. » Aussitôt, j'ai dit « Il est mort ?» Ce n'était pas une question, plutôt une certitude. Nathalie a répondu « Oui ». Et avant que le téléphone soit coupé à l'entrée d'un tunnel, j'ai compris, j'ai su. Mais sur le coup, quand il a commis l'irréparable, non, je n'ai rien senti. Je devais être à mon bureau. J'essaie de me remémorer ce que je faisais précisément à cet instant, mais à quoi bon, puisqu'il était déjà hors d'atteinte. Avec son téléphone portable dont il ne se servait jamais, auquel il ne répondait pas, et dont je n'avais pas le numéro. Un à-coup de la rame m'a seulement fait perdre l'équilibre. Je me suis rattrapée de justesse à une poignée de métal. Je ne suis pas tombée. Je n'ai pas pleuré. C'était une belle journée le 11 mars. A-t-il posté les lettres le matin même ou la veille au soir? Impossible de savoir. Sans cacher de la poste pour faire foi. Et foi de quoi? Lui qui ne croyait en rien d'autre qu'à la vie. Qu'il a aimé jusqu'au bout, sans Dieu, avec sa morale à lui, ses générosités, ses élans du cœur et ses détestations de l'ordre établi. Loin des bigots et des bien-pensants. Et quand il a fait le geste de les glisser dans la boîte, l'une après l'autre, comme autant de coups déjà mortels, tremblait-il seulement un peu? Son cœur, avant de s'arrêter, battait-il un peu plus fort? Non, il n'a pas tremblé, puisqu'il honorait seulement un rendez-vous très ancien avec lui-même. Un engagement qu'il avait peut-être scellé dans le tréfonds le plus secret de sa conscience, quand il était soldat en Algérie sous l'uniforme français, et qu'il devait tirer sur ses frères arabes. Ou alors, plus récemment, quand une attaque cérébrale avait manqué le laisser paralysé. Il s'était appliqué sa propre rééducation, avait retrouvé peu à peu l'usage de ses mains et de ses bras à force d'exercice, petits haltères noirs en fonte, sac de sable en peau râpée, soulevé tout doucement, instrument à ressort pressé au creux de sa paume. Il s'en était sorti en se soignant, telle une bête blessée, à l'abri de regards, au fond d'un garage où nul ne venait fourrer son nez, chez sa sœur Zoun et mon oncle André. Un jour, il m'avait dit que s'il n'avait pas réussi à recouvrer ses moyens, en fait, il n'avait rien dit. Il s'était contenté d'un geste du doigt sous son cou, le doigt comme un canon dressé. Mon père ne se serait pas supporté diminuer. S'il était discret, fuyant la lumière et les honneurs, jamais il ne serait devenu l'ombre de lui-même. Cet aveu m'avait affolé, puis j'avais oublié. Et s'il n'avait réparé sa main droite que pour la préparer, un jour ou plus tard, au geste fatal? J'entends son ancien associé, Jean-Pierre Arnautou. Ton père, il n'avait pas peur de grand-chose. À vrai dire, je crois qu'il n'avait peur de rien. Pas de la mort, en tout cas. Il l'avait inscrite parmi ses rendez-vous avec ses clients, et surtout ses clientes, très vieilles de préférence, qui le guettaient derrière les rideaux de leur maison de retraite, assurés que sa présence, sa voix tonique et douce à la fois, leur redonnerait du cœur pour faire quelques pas, en rabâchant quelques souvenirs du temps où elles étaient jeunes filles au pas léger. Tu leur souriais. L'une d'elles t'attendait à l'entrée de la maison de retraite, assise sur une chaise, même si elle n'avait pas de séance prévue avec toi. Elle t'attendait pour que tu lui parles un peu, et après elle disait aux anges « Mon Dieu, je l'ai vu. Tu étais son Dieu, toi qui n'en avais pas. J'entends encore ton rire quand tu racontais ta visite à une petite vieille frappée d'Alzheimer. Voyant qu'il te manquait des dents devant, elle t'avait rassuré. Il ne faut pas t'inquiéter, elles vont repousser tes dents. Ton sourire est bréché avec les trous noirs des dents manquantes. Quelle pensée emplissait son esprit quand mon père n'eut plus sur le cœur ce poids de papier, des lettres de moins de 20 grammes. pour dire qu'au moment où nous les ouvririons, il serait arrivé ce qui devait arriver, qu'il avait choisi, qu'il avait rendez-vous avec cette fin depuis longtemps. Ne sois pas triste. Ne soyez pas triste. Signé, un vieil enfant qui n'avait jamais voulu grandir ni vieillir, et qui avait commis là son dernier acte d'homme libre, à moins que ce ne fût le premier. Partout, mon père. Partout, tout le temps, par tous les temps. Dans cet instant flou qui précède le réveil, dans l'engourdissement qui m'envahit le soir avant de glisser vers le sommeil. Où est-il ? Question idiote et pourtant lancinante. Envie de l'appeler, d'entendre sa voix une dernière fois pour la route, la longue route sans lui. Je ferme les yeux et il apparaît. Ce n'est pas un fantôme, mais tout le contraire. Il a passé son chandail couleur corail, nous montons le Tourmalet, j'ai 13 ans. Il est d'autant mieux devenu mon père que de toutes mes forces et de toutes mes peurs, j'ai voulu devenir son fils. Nous grimpons les lacets en mélangeant nos souffles. Mon grand-père va et vient, à bord de sa panhard grise qui fait un bruit de tromblon. Plus tard, j'ai semé papa, 10 mètres, 20 mètres, 100. Grand-père est fier de ce petit-fils qui appuie comme un démon sur les pédales. Derrière, mon père trouve un rythme plus lent. Il boit de l'eau sucrée. Il a 36 ans, il sourit à l'objectif de son propre père qu'il l'immortalise en plein effort. Les deux hommes se ressemblent. Quelque chose de fixe dans les yeux, de déterminé, quelque chose qui ne veut pas céder. Une volonté pareille à de l'insolence, avec un petit sourire en coin, logé là comme par inadvertance. Des fossettes de malice. Quand papa arrive au sommet, il lève les bras au ciel. Je suis copie. Et lui, Bartali, on a rejoué le tour 1949 rien que pour nous. Il me complimente. Mon père me trempe le caractère dans la montagne comme la fourche de mon vélo s'est durcie dans un bain de chrome. Au retour, en auto, grand-père raconte ses périples sur les pistes du sud tunisien. Papa se souvient d'avoir monté le Souleur dans sa jeunesse, l'année de leur arrivée en France. Ils ont vu passer le Tour de France dans le portait d'aspect, devant photocopie si maigre, ses joues creusées, sa pâleur de plâtre, ma grand-mère a éclaté en sanglots. J'appartiens peu à peu à leur histoire, je rentre dedans, ils perfusent ma mémoire en douceur. Mon père et mon grand-père font défiler la Tunisie. Dicky, leur jeune chacal, les matchs de la Patriote de Sousse, les contre-la-montre à bicyclette autour du port de Tunis. Un jour, papa a rapporté, roulé dans des feuilles de journal, quelques soleils dégoulinant de miel. Des zlabia, il appelait ça. Les morceaux de soleil se brisaient comme du verre sous les doigts collants. Il fallait faire vite pour attraper du bout de la langue le filet de miel. J'y pense au petit déjeuner devant un pot tout neuf, devant le soleil qui se lève au fond du jardin, devant la joie de mes enfants. Il suffit d'un rien et mon père est là. Ses mains, son regard, ses essentiels de lui, bien plus que les mots dont il était avare. Sa générosité était silencieuse, faite de gestes, d'expressions du visage, de sourcils levés, d'yeux écarquillés qu'accompagnait un « o » d'étonnement ou un « a » de contentement. Et en apparence, il était souvent content de l'existence. Par exemple, si je l'appelais tôt le matin, pendant qu'il sirotait un café dans son mazagran frappé d'un N doré façon Napoléon, avec le sud-ouest déplié devant lui ou le canard enchaîné, ses seules lectures régulières avec San Antonio, si que Dan m'était compté, ou l'équipe. Ah, c'est toi ! Suivait ce petit mot toujours le même. Alors ? Je racontais, je détaillais, et je n'avais pas besoin de le voir pour deviner son œil pétillant, son large sourire. Il en redemandait, sa voix était claire, joyeuse, parfois ponctuée d'éternuements si le rhume des foins entrait dans la conversation. Chaque année, au printemps, il n'y coupait pas. C'était les seules fois où l'on pouvait le voir pleurer et rire en même temps. Je ne lui ressemble pas. Nul de mes traits, aucune expression de mon visage ne remonte à lui. Rien de commun. Pas le moindre cheveu. Mon crâne a le luisant des boules de billard quand le sien jusqu'au bout échappa à l'érosion. Douceur soyeuse de sa chevelure sur son lit de mort. Inutile de me scruter dans la glace pour espérer retrouver la plus petite parcelle de lui. Je regarde plutôt mes jeunes frères et cela tombe bien, car ils ont aujourd'hui l'âge qu'il avait quand j'ai pu, après une longue rééducation, l'appeler papa. François a pris le sourire, la pommade, ce petit air soupaulé ou pince, prince sans rire, qui ajoutait au charme naturel de notre père. Jean, le plus jeune de mes frères, a pris les traits à la serpe de papa, son visage allongé presque triangulaire, son sourire aussi, une nuance du regard, une pointe de malice. Si je superpose François et Jean, je ne suis pas loin de trouver Michel. Nonobstant la douceur de notre mère, de sa peau claire tachetée de grains roux, qui, heureusement, a aussi donné à mes frères un héritage maternel que je partage avec eux. Papa ressemblait à son père, mais les voilà tous deux réunis parmi les morts d'un cimetière de Dax. Il n'y a plus moyen de s'extasier de leur voix commune, de leur mimique semblable, de leur appétit de vivre. Il reste à fermer les yeux pour réveiller le souvenir. Plus d'une fois pourtant, il m'a semblé que je lui ressemblais, que je me comportais dans la vie comme lui se serait comporté. À force d'être mon modèle, il avait déposé son empreinte sur moi. Je finissais par prendre ses intonations, ses mouvements de sourcils. Enveloppe vide, je m'étais remplie de lui. Je le copiais à merveille, un vrai singe. Et quand un soir, descendant la rue du Palais à La Rochelle, un de ses amis confiseurs nous avait surpris à chiper des bonbons dans une grosse corbeille multicolore, c'est au cri de « tel père, tel fils » qu'il avait stoppé notre razzia, saluant de surcroît notre ressemblance supposée. Mon père et moi nous étions regardés sans un mot, puis on avait ri ensemble de cette flatterie. Chacun de nous était heureux qu'un étranger ait pu gober que nous étions vraiment père et fils de sang. Tant pis si c'était juste pour faire plaisir. Tant pis si le confiseur n'en pensait pas un mot. Il l'avait dit et nous avions envie de le croire. Comme c'est injuste pour ma mère de l'écrire, elle qui fit tant pour me tenir à l'abri du malheur jusqu'à l'âge de 9 ans, malgré l'absence d'un père, malgré tous ses doutes et ses humiliations de fille-mère dans la France provinciale des années 1960. Comme c'est injuste d'écrire que je suis vraiment née le jour où Michel Fotorino a franchi le seuil de notre appartement de la cité du Grand Parc à Bordeaux, qu'il m'a fait chausser des souliers à crampons pour que je joue, une vraie brêle, je l'ai dit, gardien de but des Poussins du Bordeaux étudiant club, où il était connu pour ses exploits d'arrière infranchissables. Je suis née quand j'ai pu un jour le ceinturer de mes bras et l'appeler papa, sans qu'il ne fasse rien d'autre que me passer sa main dans les cheveux. Je suis née quand il a trouvé que ma mâchoire inférieure avançait un peu trop et qu'il montra à son beau-frère André, mari de Zoun et dentiste de son état à Pontaillac, qu'il montra d'urgence ce qui menaçait de devenir un menton en galoche. Je suis née quand il unit sa voix à celle de ma mère pour m'exhorter à me tenir droit, à ne pas marcher voûté, à placer mes épaules en arrière pour dégager ma cage thoracique. Je l'entends encore me répéter « Tiens-toi droit !» leçon apprise et retenue.
أسوار طغيان ساحق فينا أحلاما أحلام وعم الظلام والأنانية في كل القلوب لو كنت غامض إلي وتاخذني لأحلامي.
C'est sur mon vélo que je l'ai ressuscité. Une promenade un matin de juillet à travers le marais Poitevin, la veille, premier jour des vacances, je suis passée sans m'arrêter devant son village. Pas un regard, mais la gorge légèrement serrée. Sans plus, il faisait trop beau pour se laisser gagner ou perdre par la tristesse. La pensée m'a sauté dessus à l'improviste. Pour la première fois, il ne serait pas là, il ne téléphonerait pas à la maison tôt le matin de sa voix joyeuse. « Alors, vous êtes arrivé ?» Ce serait le premier été sans lui, et il faudrait s'habituer à cette absence. Mais continuer de guetter dans la rue, mais espérer ses visites à l'improviste pour la joie de ses petites filles, sa silhouette surgissant derrière la porte vitrée. Hé hé hé, ma belle! Ha ha ha, ma jolie! Bonjour, ma poule! Vocabulaire rudimentaire d'homme des bois sortant de sa forêt pour faire la surprise. Il m'a appelé ma poule, gloussait Zoé. Ce matin donc, chevauchant mon Jimmy Casper, un vélo offert par le sprinteur français lors du Midi Libre 2001. Comme Lucky Luke monte sur Jolly Jumper, Poor Lonesome Cowboy, je file à travers le marais, dans cette immense tuyauterie végétale traversée de conches, bondes et siphons, le long du chemin de halage entre La Rochelle et Maran, vent de côté, souvenir bien calé derrière la tête, et surgissant comme des elfes dans la verdure charentaise. Je pédale le long d'un canal dans ce décor voisin des lieux où mon père, pour la dernière fois, pédala tout son sou. Aperçut-il comme moi l'envol laborieux d'un héron cendré, tache grise dans l'or des blés coupés, ou ce cygne, au port majestueux, dans sa blancheur insolente posée sur l'onde, ou une de ces loutres espiègles qui sortent de leur museau de l'eau, en frémissant, une feuille de nénuphar sur l'œil, pareille à une casquette de gavroche? Entendit-il le flap-flap des alouettes? C'est sur ces routes, ou plus haut vers la Venise verte, qu'il a dû se donner de l'élan, du courage avant le grand saut, sur ses routes vicinales, au bitume bleui sous le soleil comme des veines cognées. C'est là qu'il s'est empli pour toujours de la beauté du monde. Je pédale sur mon Casper, synonyme de petit fantôme, te cherchant parmi les ombres fraîches dans la lumière de juillet. Je traverse les champs de tournesol qui te ravissaient, multiplication miraculeuse des soleils, preuve terrestre de l'existence de l'homme, voilà qui convenait à tes croyances. De petits nuages moutonnent, transparents dans l'azur, en quête d'un berger. Allégresse de pédaler dans cette féerie de la nature et tristesse de ne plus t'y voir. Ma mémoire bégaye. Éric, ils sont à une minute, tu peux les rattraper. C'est ta voix. Tu es jeune encore, chronomètre dans une main, bidon d'eau dans l'autre, léger sourire si je suis en tête, velours des yeux, froncement sévère si je musarde. Jour de course, jour d'échappée, tu te tiens tel un arbre planté au bord de la route, droit, hiératique, me communiquant les écarts de la victoire ou de la défaite. C'était une question d'honneur, de vie ou de mort à 15 ans. Grâce à toi, le jour du Seigneur était devenu jour du coureur, dispensé de messe et d'ennui pour aller pédaler comme un démon en vue de la gloire sur une bande blanche. Compète de village, tour du marais, bosse de Vendée ou de Chalosse, tu étais là tout le temps. Moi derrière ou moi devant. Jamais je crois on ne s'est tant aimé que dans ces silences complices, dans ton regard qui me soutenait, me soulevait. Il fallait serrer les dents, mâcher le vent, cracher ses poumons. Tu seras cycliste, mon fils. Tu m'aimais tout bas, sans effusion, comme on murmure pour ne pas troubler l'ordre des choses. Tu m'aimais tout bas, sans le dire, sans éprouver le besoin d'élever la voix. C'était si fort. La force de l'évidence, que tu ne l'aurais pas crié sur les toits. Il fallait une indiscrétion de voisin, de cousin, pour que j'apprenne combien tu étais fier, heureux de ce rejeton épais comme une arbalète qui disputait au plus costaud des titres de champion à la gomme. Je me console ainsi, tu es parti tôt, mais tu as eu le temps d'être fier de moi, de nous tes fils. François balle au pied, Jean à la guitare basse, et le drôle de rejeton que j'étais, armé de son vélo stylo. C'est une belle histoire, une histoire de liberté, d'amour, de respect. Elle a pris toute sa beauté ce 15 juillet 2006, lorsque, à Hénande, mon village près de La Rochelle, Nathalie et moi nous sommes mariés. Mon père était là, tout sourire, vêtu de clair. Et aussi mon père naturel, Maurice Maman. Gynécologue et obstétricien en retraite, tout sourire aussi, vêtu de clair. Lui, marocain de Fès, devenu français à 40 ans, et Michel, de Ferrières, tunisien exilé. Ils se sont rencontrés pour la première fois ce jour caniculaire, comme si le soleil avait voulu fêter l'Afrique du Nord qui brillait sur leur visage. Vers le soir, à l'apéritif sur le front de mer, Michel s'est approché de Maurice et lui a dit combien il était heureux de le connaître. Il a pris la main de Maurice, qui a cru que mon père le saluait avant de partir. Mais non, Michel tenait la main de Maurice, signe muet d'estime, d'affection, de simple plaisir d'être ensemble. Comme en Afrique, on se tient par la main le temps de la conversation, sauf que mon père ne disait rien. Il arborait juste son sourire désarmant et chaleureux qui confondit Maurice. Je me demande à présent si Michel ne lui a pas seulement passé le relais, son geste signifiant « Je vais disparaître un de ces jours et ce sera à vous, Maurice ». De continuer à être son père pour le temps qui reste. Deux pères le jour de mon mariage, aucun le jour de ma naissance. Une mère de 17 ans à peine, livrée seule à sa grossesse, à sa maternité, à l'éducation stricte d'une mère très catholique qui ne pouvait souffrir que sa fille puisse devenir l'épouse d'un juif marocain étudiant la médecine à Bordeaux. Ce fut une histoire terrible pour ma mère et aussi pour Maurice, qui dut retourner au Maroc. Son diplôme de gynécologue accoucheur en poche, qui fit naître des milliers d'enfants, mais ne put m'approcher, sauf une fois pour me vacciner puis m'offrir un jouet. Avec les années, j'ai mesuré la souffrance de ma mère, son courage pour m'élever seule au début des années 1960. J'ai mesuré aussi la souffrance de Maurice, que je vis réellement pour la première fois, l'année de mes 17 ans. Il vivait en France depuis peu et j'avais noué un lien avec lui via l'ordre des médecins. Chercher à le voir me donnait le sentiment insupportable de trahir mon père, Michel, qui m'avait donné son nom, m'avait élevé aux côtés de ma mère. Il m'a fallu du temps pour faire la part des choses, pour ne pas rejeter Maurice, pour aimer l'un et l'autre sans tiraillement. Michel restant à jamais mon père, et Maurice, celui dont le sang irrigue paisiblement mes veines. Michel, Maurice, le M commun de magnifique. Je me revois ce soir d'hiver 1977. J'ai retrouvé mon père dans son cabinet de la rue Bazoges. J'attends le départ de son dernier client. Je lui dis « Voilà, tu sais que tu n'es pas mon vrai père, alors… » Il me regarde, son œil brille d'une drôle de façon. Jamais je ne l'ai vu briller ainsi. Et ses pommettes viennent de s'empourprer. Je bafouille un peu. « Enfin voilà, j'aimerais voir la tête de celui qui m'a fait… » Juste sa tête, savoir à quoi il ressemble. Il a dit d'accord tout de suite. D'accord. C'est une histoire de liberté. Une belle histoire au bout du compte. C'est lui, un matin de cet hiver 1977, qui m'a conduit à la gare de La Rochelle, un train très tôt. Il faisait nuit encore et les rues étaient verglacées. La Lada roulait tout doucement, se déportait vers la droite, vers la gauche. Papa, tu conduisais lentement, mais tu ne voulais pas que je rate ce train. Malgré ton anxiété à me voir partir vers l'autre.
Tu ne disais rien. Tu fixais cette fichue route qui se dérobait sous les roues de l'auto. Tu hésitais entre le frein et l'accélérateur, à cause du verglas. On serait à l'heure, il ne fallait pas que je m'inquiète. Les voitures russes connaissaient forcément le froid. Je ne m'inquiétais pas de ça. À l'autre bout du train, Maurice m'attendait. J'ai vu tout de suite qu'on se ressemblait. « Papa, tu as eu peur de me perdre. » Maurice, lui, a eu envie de me prendre. Mais il a senti si fort le lien qui m'unissait à toi, Michel, qu'il n'en a rien fait. Il n'a rien entrepris par la suite que je n'ai accepté au préalable. Il a eu ce tact, cette humanité, cette compréhension. Je fus long à apprivoiser, souvent rétif, distant, cruel peut-être parfois vis-à-vis de ce père de sang qui n'avait pas eu la partie facile. Michel s'est vite senti rassuré, il était mon père et nul n'y pourrait rien changer. Puis, en douceur, funambule sur le fil des années, j'ai ménagé une place à Maurice, pas la même. Une place à part, faite de curiosité, d'estime et enfin d'affection. Pour que tout cela finisse par cette journée de soleil, le jour de mon mariage, avec ces deux hommes de ma vie se tenant la main en silence. Lorsque je rends visite à Maurice et à son épouse Paulette, qui tant de fois m'ont accueilli dans leur maison de Muret, mon regard s'arrête sur un détail. Sur le seuil, déposé presque négligemment sur un lit de feuillage, brille une plaque de cuivre. Docteur Maurice Mamann, gynécologue obstétricien. C'est toute sa vie résumée en quelques mots. Je regarde cette plaque et je pense à une autre sur laquelle était écrit « Michel Fotorino, ma sœur kinésithérapeute ».
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot.
Dans ce texte, l'écrivain Éric Fotorino cherche à comprendre les raisons du geste de son père. Tentative qui s'avère inutile, il le reconnaît. Sans doute ai-je trop prêté à l'écriture. Me voici au bout du voyage et je dois me l'avouer, je n'ai rien éludé, rien élucidé non plus. Il lui reste à vivre l'absence et à respecter cette part obscure qu'il aurait, selon ses mots, aimé cerner pour la détruire à force d'amour. Vous avez entendu les voix de Marie-Paul et Guylaine, Claude Michel a assuré le montage de l'émission. Les plages musicales sont extraites de Holm d'Emel Matlouti et de Father and Son de Cat Stevens. À bientôt.
Everything. You've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101